France Culture.
Bonjour le Book Club, je m'appelle Julia et j'ai relu Morte à Venise. Je l'avais déjà lu une première fois et j'ai l'impression qu'à l'époque j'avais surtout lu le titre. Le nom grandiose de Thomas Mann et puis Venise, un mot presque comme un concept avec tout ce qu'il évoque culturellement et esthétiquement. En le relisant aujourd'hui, l'expérience a été complètement différente.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Thomas Mann est né en juin 1875, il y a tout petit peu plus de 150 ans. Ce chiffre rond a occasionné plusieurs manifestations, lectures et relectures en 2025 partout dans le monde. Mais 2026, c'est l'entrée de son œuvre dans le domaine public dans de nombreux pays, puisque l'auteur allemand, prix Nobel, meurt à Zurich en 1955. Cela relance les lectures, les adaptations et les traductions. Revivifie, s'il le faut, l'intérêt pour les textes de Thomas Mann. Nous nous penchons aujourd'hui sur une de ses nouvelles traductions, De la mort à Venise, texte publié en 1912 et qui paraît ces jours-ci avec d'autres nouvelles aux éditions Bourgois. La ville italienne, plusieurs mystérieuses apparitions masculines, le désir homosexuel, le vieillissement, la création et la mort, puisque Venise, tour à tour somptueuse et malsaine, est soumise à une épidémie de choléra. Claire de Oliveira signe cette traduction et elle est avec nous pour l'évoquer. On se quittera en musique, évidemment. Thomas Mann avait l'oreille musicale, c'est peu dire, le cœur tout entier. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Claire de Oliveira.
Bonjour.
Votre traduction des nouvelles de Thomas Mann paraît aux éditions Christian Bourgois sous le titre « La mort à Venise et autres nouvelles ». Vous serez le 18 février prochain à la librairie Compagnie rue des Écoles à Paris pour une rencontre autour de cet ouvrage Thomas Mann et ses nouvelles. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue dans le Book Club. Vous êtes maîtresse de conférences à la Sorbonne et vous enseignez en particulier la traductologie. Je signalais qu'en 2026, donc, l'œuvre de Thomas Mann se versait au domaine public. Ça donne lieu à plusieurs parutions. Les Budenbrook chez Gallimard, il y a une parution chez Flammarion, il y a Les Belles Lettres, il y a le livre de poche. On fait aussi reparaître au bruit du monde la traduction de Philippe Jacotet. Donc en effet, il y a une sorte d'actualité éditoriale autour de Thomas Mann et on est ravis de pouvoir y participer. Peut-être pour commencer, j'ai dit quelques dates au début dans mon introduction, mais d'une part, j'ai été vite et probablement ça ne suffit pas comme élément biographique pour se lancer dans La mort à Venise parce qu'il y a un dialogue avec la biographie de Thomas Mann. Donc c'est intéressant d'avoir en tête quelques éléments. Est-ce que vous voulez bien faire pour nous une introduction de ce grand auteur qui est Thomas Mann?
Volontiers. Oui, ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'à première vue, rien ne le destine à écrire. Ni son milieu familial, ni ses résultats scolaires, parce que c'est un cancre qui est mal à l'aise au lycée de Lübeck, mais étonnamment doué pour l'écriture en prose. Ce qui fait que très tôt, en 1892, il va être coéditeur d'une revue où il publie ses premiers textes.
Il a 17 ans.
Il a 17 ans. Et personne ne le comprend, ni son père, qui est consul, c'est-à-dire qui s'occupe des intérêts commerciaux à un niveau très élevé. Il est aussi consul des Pays-Bas. Et quant à sa mère, elle se laisse vivre un petit peu dans l'oisiveté et c'est une Brésilienne de sang mêlé, la fille donc de riches commerçants aussi. Et là déjà, on a un trait constitutif de la famille, la notion de métissage, qui revient en permanence dans l'œuvre de jeunesse, si l'on songe par exemple à l'ascendance du héros de La mort à Venise, dont on parlera tout à l'heure à Schönbach, ou si l'on songe même à Tonio Kröger, on entend déjà dès le nom qu'il y a des consonances mélangé à la fois exotiques et germaniques. Voilà. Et ça reproduit donc la mixité du couple parental. Et dès son enfance dans ce milieu privilégié, Thomas Mann a accès à tous les livres qu'il veut, il a accès à la musique, sa mère lui joue des études de Chopin au piano. Mais dans cette petite ville de la Hanse, qu'est Lübeck, les négociants ne jurent que par l'argent, le pragmatisme, la morale bourgeoise. Et Thomas Mann, quant à lui, décèle très tôt dans cet univers des failles délabrement. Il les décèle avec une sensibilité qu'on pourrait qualifier de sismologique. Son père meurt en 1891 et c'est la dissolution de sa maison de commerce. Sa mère part alors s'installer à Munich, avec ses autres enfants. Et Thomas Mann va les rejoindre en 1894. Il va travailler dans une société d'assurance, ça nous fait penser à Kafka, et il le fait également à contre-cœur.
Et là-dedans, il écrit, il continue d'écrire. Vous avez mentionné sa première parution à 17 ans dans une revue qu'on peut appeler de jeunesse ou étudiante. Il continue de pratiquer l'écriture, mais sans avoir toujours d'ambition littéraire ?
Il commence à avoir vraiment des ambitions littéraires, parce qu'il a l'idée d'un grand roman, Les Buddenbrook, que je suis en train de retraduire. Et il commence à le rédiger à l'âge de 22 ans, en 1897. En fait, c'est à Rome où il séjourne avec son frère Heinrich. Bon, il a quelques dissensions avec son frère, mais c'est une relation conflictuelle et qui permet d'avancer, je dirais. Donc les deux s'influencent mutuellement. Et dans ce livre, Thomas entreprend de conter l'histoire de ses propres ancêtres qui appartiennent à la haute société de Lübeck. Mais une question le taraude. Cette famille, donc Mann ou Buddenbrook, c'est bien sûr de la sienne qu'il s'agit. En quoi consiste son vrai déclin ? Est-ce qu'il s'agit de la faillite, de la mort, qui est un vrai traumatisme en 1891 pour Thomas Mann et les siens ?
Parce que, précisez-le peut-être, quand vous dites la faillite, c'est-à-dire oui, la faillite du commerce.
Oui, parce que la faillite, la dissolution de la famille va de pair avec le décès paternel. Et donc, la question qu'il se pose, c'est est-ce que la faillite, c'est la mort du père et la dissolution d'une maison de commerce, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un processus de dégénérescence qui est visible chez lui-même ? L'artiste, le créateur. Et donc, Mann poursuit un objectif aussi littéraire qu'existentiel. Il tente d'avoir prise sur son histoire personnelle et l'écriture devient un outil pour interroger la mémoire. C'est à partir de cela que se tissent toutes les histoires qu'il va créer.
Alors, vous mentionnez ce premier très grand roman, donc Les Buddenbrook. Quelle est la place des nouvelles dans ce grand œuvre qui commence donc à l'aube du XXe siècle
Alors, Les Buddenbrook, c'est le livre qui fonde sa notoriété, c'est publié en 1901 et ça lui vaudra le prix Nobel en 1929. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Thomas Mann intercale sans cesse des nouvelles dans ce grand projet, comme s'il avait besoin de s'échapper de la rédaction ou bien peut-être aussi, c'est ce que je crois personnellement, de l'alimenter par de petites incursions dans des domaines connexes.
C'est-à-dire que ça constituerait comme des formes de laboratoire, ces textes courts, ces textes de nouvelles qui lui permettraient de revenir au roman. On en parlera peut-être tout à l'heure en évoquant les passerelles qui peuvent exister entre La mort à Venise et La montagne magique. Mais à chaque fois, ce sont des détours vertueux, fertiles, nourrissants, selon vous, pour revenir aux grandes œuvres romanesques.
Voilà, il y a une structure gigogne, pourrait-on dire, de son écriture. C'est-à-dire qu'il y a sans cesse une œuvre qui rejaillit d'une autre. C'est ce qui le caractérise beaucoup. Donc, ces nouvelles créent la surprise à chaque page. C'est ce qu'est censé faire une nouvelle, hein, depuis Goethe, qui a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait un événement inouï. Et là, ça regorge d'événements inouïs. Et Thomas Mann était convaincu que c'était son genre de prédilection. Il se trompait peut-être, hein, mais en tout cas...
Dites-vous qu'il se trompait ? C'est-à-dire, vous le trouvez plus grandiloquent, plus accompli dans l'art romanesque que dans l'art de la nouvelle ?
Moi, j'adore ces nouvelles. Hein. Je les ai traduites avec une joie, une admiration infinie. Mais c'est vrai qu'il est peut-être surtout connu pour ses grands romans comme La montagne magique, Le docteur Faustus. Enfin, c'est une affaire de goût, essentiellement. En tout cas, moi, je vois vraiment les points communs. Je vois cette structure de matrice qu'il y a dans La mort à Venise, dont La montagne magique n'est que le contrepoint satirique. C'était vraiment prévu comme ça. Et... c'est l'occasion pour l'auteur, ces nouvelles, comme Tonio Kröger, comme Tristan, de s'interroger...
Qui sont les titres, donc.
Oui, qui sont les titres des nouvelles. C'est l'occasion de réexaminer, avec ironie, le paradoxe du créateur improductif. Créateur improductif que Thomas Mann a peur d'être.
C'est-à-dire qu'il a tellement l'angoisse de ne pas écrire ou de ne pas écrire suffisamment. Ça aussi, on va y revenir. Hein. La mort à Venise s'ouvre sur le labeur du matin, le corps exténué de celui qui a travaillé le matin, qui n'a pas trouvé ni ressources ni repos dans la sieste de l'après-midi, qui va avoir comme une sorte de désir de voyager, comme désir de relancer le moteur ou la machine. Mais cette figure-là, de l'écrivain au travail et de l'écrivain à l'œuvre, c'est une figure qui revient dans les textes romanesques autant que dans les nouvelles.
Thomas Mann a découvert un procédé qu'il va utiliser très longtemps, c'est celui des masques. C'est ainsi qu'il les appelle. Donc, ce sont des avatars qu'il place dans les nouvelles. Dans L'Amour à Venise, il y a Aschenbach. Dans Tonio Kröger, eh bien, il y a Tonio Kröger. Et dans Le Petit Monsieur Friedemann, il y a un petit bossu. Et ainsi de suite. C'est un petit peu comme Hitchcock dans chacun de ses films. On voit toujours Thomas Mann apparaître et c'est un petit peu divertissant de chercher l'auteur derrière ces personnages.
À quel moment vous rencontrez l'œuvre de Thomas Mann ?
Ah, j'étais vraiment très jeune parce que des extraits de Thomas Mann, précisément de ses nouvelles, de Tonio Kröger et de La Mort à Venise, étaient dans mon manuel d'allemand. Donc j'avais 15 ans et je me suis dit que j'allais lire les œuvres qu'on m'avait présentées parce que j'ai trouvé ça vraiment...
De les lire en allemand ?
Oui, j'ai trouvé ça d'une telle originalité et elle se trouvait dans la bibliothèque de mes parents, donc rien de plus simple. Et puis ensuite, j'ai étudié ses œuvres à l'université, à la Sorbonne, et je ne m'attendais pas du tout à les retraduire un jour moi-même. Mais c'est peut-être parce que j'avais pris l'habitude de traduire des œuvres contemporaines, des œuvres de Stefan Zweig, des œuvres de Josef Roth, un petit peu d'Elias Canetti aussi.
Quand vous vous remettez au travail pour cette entreprise de traduction de ce grand recueil de nouvelles chez Bourgois, qu'est-ce qui vous frappe dans la langue de Thomas Mann aujourd'hui ? Je ne parle pas de la rencontre que vous faites avec cet Allemand bien plus tôt dans votre jeunesse, Claire de Oliveira, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de la langue de Thomas Mann ?
C'est une langue qui est somptueuse, qui est très originale et qui lutte contre... une fois de plus, une peur de l'inachèvement et une peur du silence, tout simplement, parce qu'un texte qui a énormément marqué tous les auteurs de cette époque, c'est en 1902, la lettre de Lord Chandos. Et c'est écrit par Hofmannsthal, qui théorise, qui met des mots sur l'angoisse de se taire, tout simplement, d'en être réduit au mutisme. Et c'est ce que fait ce Lord Chandos dans sa lettre. Il renonce au langage parce qu'il en a perçu toute la crise. Mmh. Donc Thomas Mann, lui, trouve un moyen d'échapper à cette crise-là. Et un de ses moyens, c'est ce qu'il appelle l'imposture. Donc il va découvrir l'imitation dans ses nouvelles. Et ce qu'il y a de fascinant dans le début de La Mort à Venise, dont vous parliez il y a un instant, c'est que c'est une parodie du style d'Aschenbach.
Donc Thomas Aschenbach Mann étant le personnage principal de cette nouvelle, qui est lui-même un écrivain, la cinquantaine, on y viendra.
Exactement. Donc Thomas Mann imite son personnage.
Il y a dans cette pratique de l'imitation, des masques, ou vous le disiez là, de la parodie, pas tant une manière de se cacher pour Thomas Mann qu'une manière de quoi, revivifier la langue, faire en sorte qu'elle sorte de la crise que vous mentionnez. C'est intéressant parce que finalement, vous mentionnez à deux reprises cette idée de la crise ou de la déréliction de quelque chose qui s'écroule, à la fois la capacité quasi radiographique, sismique du jeune Thomas Mann de le percevoir dans sa famille, dans la société, qui l'entoure, et en même temps d'en être conscient quelques années plus tard dans le langage, dans la littérature, quasiment dans la politique, parce qu'on est aussi juste avant la Première Guerre mondiale, juste avant la crise de 1929, et puis ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est objectivement la crise.
Oui, la conversion politique de Thomas Mann, on est à l'aube effectivement de cette conversion. Elle s'opère tout doucement, ce sera plutôt 10 ans plus tard, en 1922, qu'il prononcera ses grands discours en faveur de la démocratie. Mais ce qu'il expérimente sur le plan stylistique dans ses proses brèves, c'est la parodie, le jeu autoréflexif, donc un mode d'appropriation ludique qui va devenir sa marque de fabrique, hein, qui va se glisser dans toutes les grandes narrations ultérieures.
Mais ça, on le sent parce qu'on est, comme vous, érudite et qu'on sent que quelque chose se passe dans la langue qui singe d'autres langues. Ou est-ce qu'il le signale, Thomas Mann ? Est-ce qu'il dit, est-ce qu'il nous fait un signe en disant « Attendez, là, je fais une description, elle est de cet ordre-là, elle a éventuellement un air pompeux ou elle est pointilliste, je suis en train de faire cela. » Est-ce qu'il nous le signale ?
Il lui arrive de le signaler par le biais de l'ironie, qui est quelque chose d'extrêmement important à ses yeux, parce qu'on sent toujours son sourire amusé. Son sourire ou son rire. Et moi, il m'est beaucoup arrivé de rire en le traduisant, ce qui est quand même quelque chose de...
De plaisant. De,
voilà, voilà. Ça compte dans la vie, ça compte dans la vie d'une traductrice aussi, de s'amuser. Et il valorise l'artifice comme étant un des possibles de la création. Donc il prend le contre-pied de la tradition, d'une tradition extrêmement sérieuse et sévère qu'Aschenbach représente au début, cet esprit prussien qui privilégie la volonté, qui lui accorde la primauté. Non, Thomas Mann, lui, a envie d'une écriture dérangeante, légèrement transgressive, avec une ironie qu'il qualifie d'érotique parce qu'elle concilie les antinomies, elle refuse de prendre parti, elle s'amuse. Et elle met, bien sûr, parce que c'est ça le but, elle montre, elle révèle les failles d'un monde qui est d'une intolérance explosive, on le sent dans certaines nouvelles où il y a des bagarres d'adolescents, une intolérance explosive et qui s'apprête à basculer dans la violence.
Et on va le voir, c'est vraiment tous ces thèmes qui sont à l'œuvre dans La mort à Venise. Peut-être un petit mot, Claire de Oliveira, pour dire où est-ce qu'il se situe, lui, dans sa biographie personnelle, familiale, amoureuse, en 1912, quand paraît La mort à Venise ?
Alors, je crois qu'il faut qu'on se situe déjà en 1911, à l'origine du récit. Il y a un séjour des époux Mann dans la ville lagunaire. Et quand il aborde Venise, et même un petit peu avant, dans l'île de Brioni où il séjourne, Thomas Mann lit dans la presse des informations sur la santé de Gustav Mahler, qui revient à Vienne et qui est mourant.
Pour qui il a déjà une immense admiration.
Oui. Il est fêté par l'Allemagne entière et Thomas Mann l'adore parce qu'il voit en lui l'incarnation de la volonté artistique la plus pure. C'est ce qu'il dit de lui, parce qu'il a assisté à la création de la 8e symphonie de Mahler. Et Mahler, qui auparavant se faisait siffler, a eu des éloges énormes et le public l'a applaudi pour la première et la dernière fois de son existence. Et aussitôt après sa disparition, Thomas Mann va donner son prénom au personnage principal de la nouvelle, Gustav von Aschenbach. Mais en tout cas, à Venise, en 1911...
Avec sa femme, donc.
Avec sa femme Katia, donc dans ce haut lieu du tourisme où la société huppée se retrouve en pleine belle époque, il y a une épidémie de choléra asiatique. Et épidémie, ça circule effectivement, et puis dans le peuple, démos, et sans distinction, bien sûr, d'âge ni de classe sociale. Donc c'est une danse macabre, un thème cher à l'auteur, et tout le monde y est convié. Et Thomas Mann s'est documenté avec précision dans les journaux de l'époque, dans des rapports officiels aussi, grâce à des témoignages. Il a identifié le patient zéro. Et il décrit précisément les infections qui gagnent toute la ville, malgré les dénégations et les démentis des autorités qui disent que ça passera très vite, que ce n'est rien du tout.
Et donc ça l'intéresse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment placer l'écriture de la nouvelle La mort à Venise sous le champ à la fois, sous la lumière à la fois de l'épidémie de choléra, son chagrin, parce qu'il est véritablement remué par la mort de Gustav Mahler, et l'endroit où il se trouve désormais, là, 1911-1912, dans son œuvre littéraire qui a déjà bien avancé. On est à peu près là dans la vie de Thomas Mann quand il rédige La mort à Venise. Est-ce qu'on doit savoir une dernière chose ?
Il faut simplement comprendre que cette maladie, le choléra, est révélatrice d'un mal plus profond. Selon lui, c'est le mal de toute une société, c'est une aventure du monde sensible, parce qu'on est beaucoup dans les sens, dans le sensuel. Et cette aventure du monde sensible se confond obscurément avec celle du cœur et de l'esprit.
Et ça, on va y venir, parce qu'il y a évidemment de très grands, profonds, souterrains allers-retours entre cette épidémie et les passions dangereuses qui secouent le cœur et le corps de son personnage principal, juste après ça.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
Grazie, signore. Grazie. Grazie.
Approchez-vous. Hein? Pourquoi est-ce que l'on désinfecte Venise?
Oh, la polizia l'ha ordonato, signore. Oh, a causa del calore. Lo sirocco, eh? Lo sirocco oppresse la poitrine. Lo sirocco mauvais pour la santé, hein?
Il n'y a donc aucune épidémie à venir.
Aucune, aucune. Une épidémie. Le siroc n'en est une. La polizia sa un'epidemia. Una precauzione, signore. Grazie. Grazie. Grazie.
Quelles singulières heures. Quel effort singulièrement éprouvant, étrange procréation que ce commerce de l'esprit et d'un corps. S'exclame le narrateur de la nouvelle La mort à Venise, que l'auteur allemand Thomas Mann fait paraître en 1912 et que nous mettons au programme de votre book club aujourd'hui à l'occasion de votre nouvelle traduction Claire de Oliveira, parue aux éditions Bourgois. Ce narrateur est omniscient et le personnage principal de la nouvelle s'appelle Gustav Aschenbach, on en a parlé, écrivain dans la cinquantaine, pris d'une soudaine envie de voyager, il pose ses valises à Venise, écrit, travaille, pense, mais surtout désire. Il désire un tout jeune homme, une apparition, presque, Tadzio, sur le corps duquel l'artiste entend mouler directement son style. Je cite ici Thomas Mann, ou plutôt votre traduction française. La ville et les corps sont menacés par le choléra qui se répand dans les rues comme une métaphore mortelle des passions dangereuses qui animent l'artiste. Alors peut-être allons plus avant dans la présentation de ces deux grands personnages que sont Tadzio, ce très jeune homme, véritable apparition, muse, en tout cas objet du désir, on va y venir, et la figure de cet auteur, Gustav Aschenbach.
Aschenbach signifie littéralement « torrent de cendres » et c'est un autoportrait de l'auteur en torrent de cendres. Un auteur ambitieux, défenseur opiniâtre de la discipline, de la volonté, mais qui brusquement, effectivement, va avoir une envie de voyage et une envie d'amour interdit. Et cette envie est suscitée au cimetière de Munich. Il s'y promène, après avoir un petit peu déambulé dans le jardin anglais. Et c'est sur l'escalier d'une chapelle funéraire qu'il rencontre un avatar du diable. Alors, cette petite découverte des détails précis de la chapelle funéraire dans le cimetière de Munich me semble vraiment importante parce que c'est une preuve à verser au dossier de l'autofiction. C'est une promenade que Thomas Mann a faite et il décrit les choses très précisément. Je me suis rendue dans ce cimetière pour retrouver toutes les traces en question.
Autre chose qu'il décrit très précisément, c'est vraiment, encore une fois, j'y reviens, le travail matinal, la manière dont il parle du moteur de l'écriture. On a vraiment l'impression, dans un premier temps, d'ouvrir la nouvelle et d'être à la table de travail de Thomas Mann qui se lève et qui se dit « je vais aller faire une promenade parce que là, j'arrive plus à avancer ».
Sauf que c'est plein d'ironie parce que Thomas Mann sait lui-même où ça va mener cet auteur extrêmement sérieux. parce que le messager de la mort qu'il a rencontré au cimetière de Munich va donner au héros une immense envie de voyage et va amorcer un processus de déliquescence, qui est dû au fait que Thomas Mann lui-même, en mai 1911, au Lido de Venise, est fasciné par un adolescent polonais, Ladislas Meuss, qui est le modèle de son personnage Tadzio. Et la femme de Thomas Mann a assisté à tout ça. Katia a noté dans ses mémoires non écrits que, il a immédiatement attiré l'attention de mon mari, sa beauté était extraordinaire et mon mari ne cessait de le regarder avec ses compagnons sur la plage.
Véritablement, il y a une sortie des eaux. C'est-à-dire que c'est une figure quasiment divine qui sort des vagues. Et d'ailleurs, très souvent, la métaphore avec des figures mythologiques est utilisée par Thomas Mann dans le texte. Et quand Tadzio apparaît, c'est vrai qu'il divise les eaux, quoi. Il y a une espèce d'aura lumineuse quasiment appuyée. C'est plus qu'un jeune homme. C'est une aura, c'est une silhouette. Ça devient l'objet du désir, presque avec des majuscules.
C'est une figure de l'androgynie qui s'inscrit à la fois dans l'idéal esthétique de la statuaire grecque, on pense à l'Hermès de Praxitèle dont il reprend le geste qui désigne l'au-delà à la fin de la nouvelle. Il s'inscrit aussi dans la tradition du romantisme allemand parce que penseur comme Friedrich Schlegel a admiré l'idéal de l'être humain dépourvu de sexe et contenant en lui l'humanité tout entière, sans clivage du masculin et du féminin.
Peut-être qu'on peut dire quand même que c'est un tout jeune homme. À plusieurs reprises, vous utilisez dans votre traduction française le mot « enfant ».
Oui, il a environ 13 ans et il est donc l'enfant gâté d'une famille polonaise. Ses sœurs sont élevées et vêtues avec une grande austérité et sévérité, tandis que lui est beaucoup plus élégant. Il élève tard. Et
on entend souvent son prénom prononcé, des surnoms affectifs. Il y a presque l'idée que son nom résonne dans la ville et qui va attraper, presque comme un chant des sirènes, le cœur de ce Gustave dont on pensait qu'il était très sérieux et qu'il venait à Venise uniquement pour travailler.
Comme un chant des sirènes ou comme une bacchanale, hein, parce que c'est effectivement dans ce nom Tadzio que Thomas Mann reconnaît le cri évoé, le cri des bacchantes. Et il imagine effectivement, dès le début du roman, dès ce cimetière munichois, des orgies auxquelles Aschenbach participe en pensée.
On va entendre un premier extrait du texte.
À un certain endroit, Tadzio et les siens pouvaient parfois prendre une gondole. Et Aschenbach, embusqué derrière un avant-corps ou un puits pendant qu'il montait à bord, en faisait autant dès qu'il s'était éloigné de la berge. Précipitamment et à mi-voix, il ordonnait au gondolier, en lui promettant un pourboire conséquent, de suivre discrètement et à bonne distance la gondole qui venait de tourner au coin du canal. Et l'homme le faisait frémir, en lui assurant sur le même ton, avec l'obligeance roublarde d'un entremetteur, qu'il serait servi, impeccablement servi. Il glissait donc, ballotté par l'onde, adossé à de moelleux coussins noirs, à la suite de l'autre barque noire surmontée d'un bec, dans son sillage où la passion l'attachait. Par moments, la gondole lui échappait. Il en était chagriné et inquiet. Mais le batelier, sans doute expert dans de telles missions, parvenait toujours grâce à d'habiles manœuvres, de rapides traverses et des raccourcis, à lui ramener sous les yeux l'objet de son désir. L'air était calme et odorant. Les feux du soleil perçaient la brume qui teintait le ciel de gris ardoise. L'eau clapotait en frappant le bois et la pierre. L'appel du gondolier, tenant à la fois de l'avertissement et du salut, recevait une réponse lointaine, issue du labyrinthe silencieux, selon une étrange convention. C'était Venise, la belle enjôleuse équivoque. Cette ville mi-féerique, mi-piège à touristes, dont les miasmes avaient jadis vu proliférer un art somptueux, inspirant aux musiciens les accents berceurs d'une lasciveté incantatoire. Il semblait à l'aventurier qu'il avait l'œil abreuvé de cette profusion, l'oreille caressée par ses mélodies. Se rappelant aussi que cette ville était malade et en faisait mystère, mue par l'appât du lucre, il n'en épiait qu'avec plus de frénésie la gondole qui voguait devant la sienne. Aussi l'homme égaré ne savait-il plus, ne voulait-il plus que poursuivre sans relâche l'objet de sa flamme, rêver de lui en son absence et à la manière des amoureux, adresser des mots tendres à sa seule ombre. La solitude, la ville étrangère et le bonheur d'une tardive et profonde ivresse l'enhardissaient, l'incitaient à se permettre de grandes extravagances sans en rougir ni les redouter. Il lui était ainsi arrivé, rentrant de Venise tard le soir, de s'arrêter au premier étage de l'hôtel, à la porte du Bel Enfant, et tout est perdu, de rester longtemps le front appuyé à la charnière de sa porte, sans pouvoir s'en détacher, au risque d'être pris sur le fait dans cette posture insensée. Dans le même temps, il prêtait constamment une attention investigatrice et tenace aux incidents suspects qui se produisaient au centre de Venise, à cette aventure du monde extérieur qui concordait obscurément avec celle de son cœur et alimentait sa passion de vagues espoirs anarchiques.
Une concordance obscure entre le cœur de Gustav Aschenbach et la ville entière dont il parcourt les canaux. Il y a une sorte de course-poursuite au début de ce paragraphe où vraiment, sur sa gondole, il essaye d'apercevoir l'objet de son désir, le fameux Bel Enfant. Vous parliez de quelque chose de transgressif. On est véritablement dedans avec ce passage. Il y a une forme d'écriture, vous diriez, de description de l'air peu à peu vicié par le choléra et du cœur, du corps peu à peu délabré par une passion interdite pour Aschenbach.
La passion interdite, c'est le sujet de la mort à Venise, parce que les interrogations maniennes redéfinissent l'art qui imbrique désormais la règle et le dérèglement. À mot couvert, Thomas Mann nous parle de l'homosexualité pénalisée, réprimée. Il ne faut pas oublier qu'Oscar Wilde a été incarcéré en 1895 et que Proust l'évoque dans Sodome et Gomorre, etc. Donc, l'engouement pour cet adolescent du même sexe est exprimé par des métaphores qui le subliment, qui se situent au-delà du délabrement ou avant le délabrement, car le propos de la mort à Venise part de l'homosexualité pour s'élever vers la contemplation platonicienne de la beauté. Et l'auteur y élabore une conception inédite de l'esthétique.
C'est-à-dire ?
C'est que la beauté foudroie ceux à qui elle se manifeste.
Oui, à un moment donné, il écrit combien lui est insupportable un certain sourire. C'est-à-dire qu'il lui parle tout seul. Tadzio ne l'entend pas, mais il semble lui dire, il pourrait lui dire à voix haute, c'est interdit de sourire comme ça. Ça me tue que tu souris comme ça. Ça devrait être interdit que tu souris comme ça. C'est-à-dire que la beauté est si grande, et c'est peut-être pas un hasard que tout ça se trouve à Venise, que ça l'assassine.
Oui, et c'est le sourire de Narcisse que celui de Tadzio, parce qu'il est comparé à divers personnages comme Ganymède, Hyacinthe, qui sont des figures, des icônes hein, de l'homosexualité. Mais c'est bien sûr un Narcisse qui s'admire lui-même et qui risque de mourir dans cette contemplation de lui-même. Et là, on s'aperçoit que Thomas Mann n'est pas seulement dans Aschenbach, il y a aussi un jeu de miroir avec Tadzio lui-même.
Dans quelle mesure ?
Dans la mesure où tout auteur est un narcisse.
D'ailleurs, il y a toujours l'idée que dans ce désir est pris aussi la libido particulière de l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du moteur de l'écriture qui est quasiment exprimé dans ces termes au tout début du texte « La mort à Venise », qui est alimenté par la fascination, le désir qui naît à la vision de Tadzio. Que faire du tout jeune âge de cette silhouette, on oublie quand même, ou on n'oublie pas du tout, au contraire, que Gustav Aschenbach, il a 50 ans. Il a une cinquantaine d'années. Et le jeune homme en a 13.
Oui, dans le film de Visconti, on pense beaucoup à la pédophilie. Ici, je crois que c'est plutôt à l'arrière-plan, parce que je crois que ce que Thomas Mann veut nous montrer ici, c'est plutôt le débordement de l'érotisme, le débordement de la violence, de toutes les pulsions que nous avons en nous. En fait, c'est une préfiguration du freudisme. C'est ça qui l'intéresse davantage. Ce sont des forces motrices de premier plan.
Ou une concomitance, si on est au tout début du 20e, finalement, c'est pas tant une préfiguration du freudisme que quelque chose qui irait avec, non ? Je crois que c'est 1914,
il y a tout de même une préfiguration, parce que c'est en 1920.
Ouais.
que Freud va exposer dans Au-delà du principe de plaisir.
L'idée de la pulsion
l'incompréhensible de la mort, du désir de la psyché, voilà, Eros et Thanatos. Donc je crois que Mann illustre cette théorie de la pulsion de mort, hein, qui est dans l'air du temps de toute façon. Elle est aussi chez D'Annunzio, chez Camillo Boito, dans Senso. Voilà, il l'illustre avant qu'elle ne soit théorisée.
Et il l'illustre, on l'entend bien là aussi, ce sont des gondoles noires, c'est-à-dire que de tout, vraiment tour à tour, la ville elle est sublime et vénéneuse avant même qu'on s'intéresse de plus près à la question de la maladie et du choléra qui circule, elle est déjà dangereuse Venise.
Oui, parce que Thomas Mann ne croit pas un seul instant aux chances de bonheur et de confort que recèle l'hôtel des bains au Lido. Il voit que les éléments de séduction recèlent quelque chose de délétère, quelque chose de mortifère. Et il s'amuse à entretenir un certain malentendu, c'est-à-dire il nous fait miroiter quelque chose et ensuite il casse le jouet qui commençait à nous amuser. Ça rappelle un petit peu l'Autrichien.
À savoir
Arthur Schnitzler.
Qu'est-ce qui commençait à nous amuser? Éventuellement une passion possible entre Gustave Aschenbach et ce jeune homme en vacances en famille?
Oui, par exemple, cette chose-là qui peut être assez croustillante hein, quand on y songe et qui, pour Mann, en fait, fait écho à des souvenirs de Goethe, Goethe à Marion Bad, qui, à 74 ans, s'éprend d'une jeune fille de 17 ans. Je crois que ça fait quelque chose comme 57 ans de différence.
Ça fait
une
beaucoup.
Bagatelle.
Mmh.
Voilà. Et selon Mann lui-même, qu'il a écrit à une femme de sa connaissance, c'est la chrysalide goethéenne dont est sortie La mort à Venise. Mais il dit, à partir de cette chrysalide, j'ai voulu parler de l'amour interdit. Parce qu'effectivement, c'est au centre de sa propre vie, appétence pour des êtres du même sexe.
On va écouter un deuxième extrait de La mort à Venise dans votre traduction, Claire de Oliveira.
Le bonheur de l'écrivain, c'est la pensée pouvant devenir sensation absolue et la sensation se faisant pensée absolue. Ce genre de pensée frémissante, de sensation minutieuse, voilà ce que notre solitaire détenait et dominait à ce moment-là. Autrement dit, la nature frissonne de félicité quand l'esprit s'incline face à la beauté pour lui rendre hommage. Tout à coup, Aschenbach eut le désir d'écrire. Et de fait, il aspirait à travailler en présence de Tadzio, à prendre la silhouette de l'enfant pour modèle en écrivant, à mouler son style sur les lignes de ce corps qui lui semblait divin, et à transposer sa beauté dans la sphère spirituelle, comme l'aigle qui, jadis, avait enlevé le pâtre troyen jusque dans les terres. Jamais il n'éprouva le plaisir du verbe avec une telle suavité. Jamais il ne sut combien Eros résidait dans les mots. Sinon, pendant ces heures d'un péril exquis où, assis à sa rude table sous l'auvent de toile, à la vue de son idole et entendant la musique de sa voix, il donna forme, d'après la beauté de Tadzio, à son petit essai. Une page et demie de prose ciselée dont la pureté, la noblesse et la tension sensible et vibrante ne tarderaient pas à susciter l'admiration de bien des gens. Le monde ne connaît que l'œuvre belle, et non son origine ni les circonstances de sa genèse. Et c'est sûrement une bonne chose, car souvent, connaître les sources auxquelles a puisé l'inspiration de l'artiste pourrait troubler, rebuter les gens, et donc annuler l'effet de l'excellence. Quelles singulières heures! Quel effort singulièrement éprouvant. Étrange procréation que ce commerce de l'esprit et d'un corps.
Un nouvel extrait de votre traduction « La mort à Venise » de Thomas Mann, Claire de Oliveira. Ici, on entend qu'on fait encore un pas de plus vers la théorisation de ce qui se passe pour ce Gustave Aschenbach et l'idée que, comme vous le disiez, il va presque quitter le territoire charnel du pur désir vers quelque chose de plus théorique, une définition de la création, des sous-sols ignorés de la création qui sont parfois bien moins reluisants que le chef-d'œuvre abouti. Qu'est-ce qui se passe dans cet extrait-là?
Eh bien, on y sent l'influence de Paul Bourget et de ses essais de psychologie contemporaine, ça a été publié en 1883, on y sent l'attirance des esthètes pour les états morbides. Et Oscar Wilde aborde aussi dans le portrait de Dorian Gray des sujets analogues qui débouchent sur un nouvel hédonisme du dandy. Parce que, évidemment, cet hédonisme du dandy va susciter des méprises à cause de cette recherche de plaisir raffiné, éphémère, jugé dépravé. Mais Thomas Mann combine cet hédonisme un petit peu décadent, pourrait-on dire, mais qu'il n'est pas. Il le combine avec cette philosophie platonicienne. Et donc, il ne cesse de citer Phèdre, le banquet, mais aussi Plutarque, Homère, Xénophon. Il a trouvé la plupart de ses références dans un livre majeur d'Erwin Rode intitulé Psyché, qui se trouve dans la bibliothèque de l'auteur aux archives de Zurich. Et on voit les passages soulignés au crayon par Thomas Mann, qui sont les références de l'amour à Venise.
Là, on entend par exemple la référence mythologique à l'enlèvement de Ganymède par l'aigle lorsqu'il parle du cœur du corps du jeune homme sur lequel l'auteur voudrait mouler son propre style. Ça lui permet quoi, ces références mythologiques, Claire de Oliveira?
La référence de Ganymède où le pâtre troyen est enlevé par l'aigle, par Zeus qui est amoureux de lui, c'est une métaphore de la spiritualisation, tout en étant une icône, effectivement, de l'homosexualité. C'est ce à quoi tend Thomas Mann, c'est à ce à quoi il voudrait arriver.
Mais comme un échappatoire à son désir charnel ou comme un véritable horizon intellectuel du rapport à la création? Parce qu'on pourrait se dire, en fait, que ce soit son narrateur ou lui-même, il se sauve par l'aspect spirituel ou mythologique plutôt que affronter réellement le moteur de sa libido et de sa création qui serait ce désir homosexuel.
Je ne sais pas si c'est une échappatoire, parce que je crois que dans cette nouvelle, il fait vraiment face à son homosexualité. Cette nouvelle, La mort à Venise, c'est l'aboutissement de 20 ans d'écriture et de quête de soi. Et si cette aspiration à un ailleurs vous semble être une échappatoire, c'est en fait parce qu'il s'agit de, pardon, je dis un mot allemand, mais de Sehnsucht. Un mot difficile à traduire, qu'il ne faut pas réduire à l'idée de nostalgie, parce que c'est l'aspiration à un ailleurs, l'aspiration à un au-delà, c'est quelque chose de très romantique. On tend à l'objet de la Sehnsucht, mais on ne peut pas l'atteindre. Et Thomas Mann a dit à sa femme Katia, c'est ma formule magique dans l'existence. Pour moi, c'est le mot sacré, et je ne fais qu'illustrer la Sehnsucht dans mes œuvres. Donc ça implique le désir ardent, sous toutes ses formes, physique, sexuelle aussi, et l'attention vers l'absolu, vers un objet inconditionnel, qui n'est réductible ni à la volonté, ni à la rationalité.
Il finit par mourir, c'est Gustave, du choléra. Il va être contaminé lui aussi, c'est le dernier mot de la nouvelle. Peut-être c'est ça qui fait dire à Julia, auditrice du Book Club, que la mort est le personnage de la nouvelle. On l'écoute.
Bonjour le Book Club, je m'appelle Julia et j'ai relu Morte à Venise. J'ai eu le sentiment que le véritable personnage principal de cette nouvelle, ce n'est ni Venise, ni même Gustav von Aschenbach, mais la mort. Et du coup, la lecture m'a semblé beaucoup plus sombre. J'aurais une question pour vous, Claire de Oliveira. En tant que traductrice, comment garder quelque chose de l'esprit ou de l'identité allemande propre à Thomas Mann en français? Et est-ce qu'il faut forcément chercher à le préserver ou accepter que la traduction transforme notre lecture? Merci beaucoup pour votre réponse.
Et merci à vous, Julia, pour cette question qui nous fait peut-être aborder plus précisément le travail de traduction de cette nouvelle, La mort à Venise, et de toutes les nouvelles que vous publiez aux éditions Bourgois. Julia parle alors en deux questions, à la fois de la mort comme personnage principal de la nouvelle et de l'idée de conserver quelque chose de l'identité allemande. Choisissez à quoi vous voulez répondre.
Alors, je réponds à la première chose. Donc, tout d'abord, sourdement à l'œuvre, il y a une sympathie pour la mort. C'est un concept de l'époque. Et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que donc Thomas Mann à le décès de son père 1891 et ensuite le suicide de sa sœur Carla en 1910. Donc l'éphèbe Tadzio est un psychopompe, un être surnaturel qui accompagne le créateur vers l'au-delà, vers l'Hadès. Et donc en fait Thomas Mann doit tuer en lui Aschenbach, le décadent aux convoitises déviantes, et c'est pourquoi il est frappé par l'épidémie. La deuxième question que pose Yulia concerne l'activité de la traduction. Effectivement, on est parfois exagérément conscient du lost in translation. Et je crois qu'elle voudrait savoir s'il faut être plutôt cibliste au sourcier, et sourcier, c'est-à-dire proche de la source, de la culture source et de celle de l'auteur. Eh bien, proche des deux, hein, mais je m'efforce de privilégier, dans une optique cibliste, les besoins du lectorat, sans que ce soit au détriment de la fidélité.
Donc, mais alors, qu'est-ce que ça crée, par exemple, ça crée quoi comme mouvement dans votre traduction, le fait que vous preniez soin de nous, lectorat contemporain de Thomas Mann?
Mais ça prend la forme d'un appareil critique avec des notes explicatives, parce que certaines choses, certaines allusions culturelles pouvaient être décelées par le lecteur de l'époque, et puis d'ailleurs d'une façon plus générale par un lecteur germanophone.
Et moins par
nous, francophones d'aujourd'hui, nous avons quand même besoin d'un certain nombre d'explications. Donc c'est ce que j'essaye d'apporter par rapport aux traductions précédentes, c'est non seulement l'intégralité, donc j'inclus même des inédits, mais une édition préfacée et commentée préfacée, parce que j'essaye de donner certaines pistes interprétatives que le lecteur peut suivre, et ça permet de saisir aussi les liens qu'il y a entre toutes les nouvelles, toutes les passerelles, et une chose importante à mes yeux, l'intertexte au sens large. Parce que Thomas Mann est un très grand lecteur, et donc il ne cesse de faire allusion à des gens qu'il adore. Il y a même des réflexions, des allusions extrêmement cryptées à Gustave Flaubert.
Alors justement, puisque vous parlez du corpus des nouvelles en général et de la manière dont elles se répondent, vous avez eu envie aujourd'hui de faire entendre un extrait d'une autre nouvelle que vous traduisez pour les éditions Bourgois. Le texte s'appelle Tonio Krüger, et on va voir en quoi il y a des échos intéressants avec La mort à Venise.
Dans sa cabine, Tonio s'étendit sur son étroite couchette sans trouver le repos. Étrangement excité par le vent cinglant et ses âcres effluves, il avait le cœur agité comme par l'attente inquiète d'une douce chose. Et il était pris d'une nausée atroce, due à l'ébranlement du bateau dévalant la pente abrupte d'une énorme vague et à la rotation convulsive de l'hélice hors de l'eau. Il se rhabilla complètement et remonta prendre l'air. Des nuages couraient devant la lune. Les flots dansaient. Ce n'étaient pas des vagues arrondies et uniformes qui approchaient en ordre régulier. Au loin, dans une lumière blafarde et vacillante, bondissait la mer foyée, flagellée, fracassée, dardant ses gigantesques langues pointues telles des flammes. Près des ravins remplis d'écume, elle dressait d'improbables figures dentelées et, avec la force de bras immenses, paraissait lancer des embruns aux quatre vents dans une folle sarabande. Le navire peinait, tanguant, titubant, gémissant. Il s'échinait à traverser le tohu-bohu, et on entendait parfois gronder dans ses entrailles l'ours polaire et le tigre qui souffraient de la houle. Tonio Krüger, se retenant à un cordage tendu à bloc, observait ce débordement féroce. Une allégresse montait en lui, et il avait l'impression d'être assez puissant pour couvrir le bruit de la tempête et des flots. Une ode à la mer exaltée par l'amour retentissait en lui. Amis sauvages de ma jeunesse, nous voici de nouveau réunis. Le poème s'arrêta là. Il n'était pas achevé ni ciselé, ne formait pas un tout sereinement composé. Le cœur de Tonio était vivant. Il resta longtemps ainsi, puis il s'étendit sur un banc proche de la cabine et leva les yeux vers le ciel aux étoiles scintillantes. Il somnola même un peu, et lorsque l'écume froide lui aspergeait le visage, il lui semblait, dans son demi-sommeil, sentir une caresse.
Grâce à cet extrait de Tonio Krüger, donc une nouvelle que vous traduisez pour les éditions Bourgois et qui date de 1903, on va pouvoir remonter un petit peu le fil, retrouver peut-être la thématique des masques, des différents masques de l'auteur Thomas Mann dont vous parliez au début de l'émission, et peut-être aussi revenir sur cette grande thématique de la crise dont vous avez fait une sorte de fil conducteur depuis les éléments biographiques Claire de Oliveira jusqu'aux commentaires précis de la nouvelle La mort à Venise. Ici, la crise qui est presque prise dans les vagues, dans la tempête. tempête dans cette espèce de déchaînement des éléments. Alors pourquoi est-ce que vous vouliez faire entendre cet extrait de Tonio Kroeger comme en écho ou en quoi, en comparaison avec La mort à Venise?
J'ai voulu le faire entendre parce que la musicalité de la langue de Mann y est frappante. Il parle de la mer, foyer, flagellé, fracassé.
Ouais.
Vous voyez, c'est très très beau la manière dont il exprime ça en allemand. Moi, j'essaye de restituer cette harmonie imitative comme je peux. Mais il y a aussi ce désir de voyage. Voilà un point commun avec La mort à Venise. Là, Tonio part en voyage au Danemark, d'abord à Copenhague, à Elsener, Hamlet. Et puis, il va s'arrêter dans une petite ville au bord de la Baltique où il va croire apercevoir brusquement son amour de jeunesse. Ses amours de jeunesse, peut-on même dire, Hans et Inge. Il était amoureux d'un camarade de lycée qui représentait tout ce qu'il y a de plus nordique, de plus blond, aux yeux bleus, et d'une jeune femme au physique analogue, Inge. Et il croit les apercevoir dans un hôtel, alors qu'en fait, il ne parle pas la même langue que lui. Et ça, c'est la phrase de Thomas Mann, c'est extraordinaire, parce que bien sûr, on comprend qu'ils parlent le danois et qu'ils n'ont pas allemand comme Tonio, mais on comprend aussi qu'il y a une incommunicabilité totale entre l'être humain, le créateur, donc, et son illusion, sa chimère qu'il poursuit dans l'existence. Et Tonio va, grâce à cette illusion, prendre conscience de la stérilité de ses aventures. Et il va décider de changer de vie, parce que ce créateur, Tonio, est encore un avatar de l'auteur, un avatar auto-fictionnel. Et ce jeune homme, ce Tonio, est victime des contradictions de son art. On le sent un petit peu perdu, égaré dans ses conversations avec une amie peintre d'origine russe, Elisaveta. Mais petit à petit se dégage en lui la conscience qu'il représente, qu'il figure, qu'il incarne l'antinomie entre la vie et l'esprit, qui semblait inconciliable au début. Et c'est cette fameuse ironie érotique de Thomas Mann qui parvient à concilier ces deux choses. Donc,
Et puis il y a aussi l'élément de l'eau, donc là l'eau est déchaînée, c'est la tempête, on vient l'entendre, Tonio Kroeger tient les cordages, on sent qu'il est menacé par la tempête, et puis on entendait tout à l'heure dans La mort à Venise, c'est l'eau de Venise, c'est l'eau aussi avec les miasmes, avec les microbes, c'est l'eau avec les gondoles. Qu'est-ce que ça nous raconte ce rapport aux éléments naturels pour figurer les passions intérieures, les passions intellectuelles?
Alors, je ne pense pas que ce soit la même eau. Effectivement,
ça,
l'eau lagunaire est putride, tandis que cette eau de la mer du Nord et de la Baltique, Thomas Mann la connaît parfaitement, et pour lui, c'est l'immensité. Il éprouve ce sentiment océanique au sujet duquel Romain Rolland s'est entretenu avec Sigmund Freud. Et le plaisir qu'il éprouve face à cette mer ultra-puissante, c'est le même plaisir que Hans, dans la montagne magique, Hans Castorp, va éprouver face à l'immensité des montagnes enneigées.
J'allais y venir, transition tout trouvée, en effet, parce que ça fait presque une généalogie dans ce que vous nous proposez comme chemin, Claire de Oliveira. C'est-à-dire, on aurait 1903 Tonio Kroeger, on aurait 1911, 1912 La mort à Venise, et ensuite la montagne magique. En quoi est-ce qu'on a une sorte de trajectoire vers la montagne magique? Vous avez presque dit tout à l'heure qu'il y avait un simple, entre guillemets, développement de cette nouvelle.
Oui, La mort à Venise reprend des phrases musicales des nouvelles précédentes et mène à La mort à Venise en les portant à leur paroxysme. Et Mann, publiant La mort à Venise en 1912, a fait son miel de la sympathie pour la mort qui donne naissance au début de la montagne magique et au milieu de la montagne magique, justement pendant cette promenade de Hans Castorp dans la neige, il y a l'idée qu'il faut absolument renoncer à la sympathie pour la mort pour aimer la vie. Donc, effectivement, Mann est arrivé à tuer en lui-même le Aschenbach qu'il était.
On a entendu d'ailleurs dans la lecture qui vient d'être faite de Tonio Kroeger dans votre traduction qu'il avait un cœur vivant. Il y a quand même l'idée de trouver la vie plus que cette fameuse crise, cette fameuse façon de se laisser aller à la déréliction.
On a deux périples dans ces nouvelles. Dans La mort à Venise, un périple qui s'achève sur la mort. Et d'Antonio Kröger, le voyage se termine sur une note d'espoir parce que Mann entreprend d'harmoniser la négation de la philosophie de Schopenhauer et celle de Nietzsche, son affirmation vitale. Et en même temps, il prend ses distances à l'égard de ces deux philosophes.
Le book club continue. Un petit agenda du book club pour signaler que le mardi 10 février à la maison Heinrich Heine à Paris, et bien à l'occasion de l'année Thomas Mann, une table ronde est organisée autour de l'œuvre de cet écrivain majeur, donc du XXe siècle. L'événement proposera une réflexion sur la portée de ses romans et ses nouvelles, notamment Les Buddenbrook et La mort à Venise. Donc on peut se rendre à la maison Heinrich Heine en vous écoutant. Dans le book club, il y aura autour de la table Maurice Godet, Dominique Tassel et Philippe Zard.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
Vous avez dit, Claire de Oliveira, la grande importance qu'avait la musique dans la biographie de Thomas Mann et le tourment dans lequel il se trouve au moment d'écrire La mort à Venise suite à la mort de Gustav Mahler. On va se quitter par la lecture d'un autre texte, car à la fin du Book Club, nous cherchons la musique partout où elle apparaît dans les textes. Ici, c'est avec le Docteur Faustus, traduit de l'allemand par Louise Servicin, chez Albin Michel en 1950. Après, Kretschmar ne quitta plus le pianino pour regarder sa table de conférencier. Il resta en face de nous sur son tabouret tournant, dans la même attitude que nous, les mains entre les genoux, et acheva en quelques mots sa leçon sur le problème de savoir pourquoi Beethoven n'avait pas ajouté de troisième mouvement à l'opus 111. Il suffisait, dit-il, d'avoir entendu le morceau pour pouvoir répondre nous-mêmes à la question. Un troisième mouvement ? Un recommencement ? Après un pareil adieu, un retour après cette séparation, impossible. Il était advenu que la sonate, dans ce deuxième mouvement, cet énorme mouvement, s'était achevée à jamais. Et lorsqu'il disait « la sonate », il n'entendait pas désigner uniquement celle-ci, en ut mineur, mais la sonate en général, en tant que genre, en tant que forme d'art traditionnelle. Elle avait été amenée ici à sa fin. À faire une fin, elle avait rempli son destin, atteint son but insurpassable. Elle s'abolissait et se dénouait, elle prenait congé. Le signe d'adieu du motif Ré Sol Sol, adouci mélodiquement par luth dièse, était un adieu dans ce sens général aussi, un adieu grand comme l'œuvre, l'adieu de la sonate. Merci beaucoup, Claire de Oliveira, d'avoir été avec nous pour parler de La mort à Venise et autres nouvelles parues aux éditions Christian Bourgois dans cette nouvelle traduction. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, Léa Weissgruss, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Noé Margas et Garance Roubieux, ainsi qu'à Alexandre Alaïbegovic, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur Thomas Mann via le compte Instagram de l'émission. Au son aujourd'hui, c'était Élise Leu, à la réalisation Vivien Demeyer.